Good Morning Business, le grand entretien.
Il est 7h44 sur BFM Business et sur AMC Live. Notre invité ce matin, c'est Stéphane Junic. Bonjour, vous êtes le président du groupe Vive qui rassemble les mutuelles Harmonie, MGM, Mutuelle Nationale Territoriale. Vous couvrez 10 millions de Français et vous faites partie, vous, du groupe de 4 experts à qui le gouvernement a confié en janvier la mission d'étudier une évolution de l'articulation entre l'assurance maladie et les complémentaires santé. Alors, les conclusions sont attendues pour la rentrée. Je ne vais pas vous demander de commenter les travaux, mais est-ce qu'à la fin, de toute façon, ça veut dire que c'est les mutuelles qui paye.
Il faut passer d'une logique de transfert de charges à une logique de transfert de responsabilité, c'est-à-dire comment les complémentaires santé ont plus de responsabilités dans le cadre du parcours de soins, ne sont pas simplement des payeurs du ticket modérateur qui est décidé, on le voit, par les pouvoirs publics d'une manière unilatérale, mais bien de pouvoir agir sur des secteurs sur lesquels il y a encore besoin de faire un peu de régulation, d'améliorer les enjeux de qualité, bref, de gérer le risque.
Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur des lunettes, à un moment donné, vous réglementez comment? Vous dites non, c'est trop cher, c'est pas, il faut pas aller jusqu'au bout de ce que peut prendre là en charge la mutuelle, ça veut dire quoi concrètement?
C'est-à-dire qu'on a des négociations qui se font à travers les réseaux de soins, ce qu'on appelle des réseaux conventionnés avec des opticiens qui sont intégrés dans un certain nombre de réseaux. Et donc on négocie avec ces professionnels pour rentrer dans ces réseaux et le tarif, mais également des enjeux de qualité. Et ça, on peut le faire probablement sur d'autres métiers demain.
Donc dire à l'assuré, vous allez là et pas à un autre endroit, parce que j'ai négocié les prix.
On peut être en effet sur des réseaux qui sont des réseaux fermés, c'est-à-dire où on oriente vers nos adhérents. C'est pas trop la pratique dans notre pays. Ouais. Mais l'idée d'avoir un réseau qui soit un réseau qualitatif et les tarifs ont été négociés parce que derrière, il va y avoir une orientation d'une manière beaucoup plus forte. Moi, j'y crois beaucoup et pas simplement sur les métiers qui sont aujourd'hui au cœur des réseaux de soins. Je pense à l'optique, l'audio et le dentaire, mais probablement sur d'autres métiers qui seront essentiels pour prendre en charge les enjeux du vieillissement. Et des maladies.
Mais ça existe déjà dans l'assurance. Enfin, je veux dire, si vous avez un problème de voiture, on vous envoie chez un garagiste agréé, quoi. C'est ça. C'est la même vision.
Exactement.
Que vous avez.
Et ça ne pose aucun problème. Et c'est la raison pour laquelle nous devons, sur les enjeux de santé, aborder ces sujets de conventionnement d'une manière beaucoup plus forte. Et en transférant cette responsabilité, l'enjeu, c'est quoi? C'est tout simplement de se préparer sur la santé de demain. En 2035, probablement 30 millions de personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. Est-ce qu'on souhaite continuer avec une organisation qui est celle du XXe siècle ou au contraire aborder les enjeux en matière de prévention d'une manière beaucoup plus forte? Vous imaginez, Laure Closier, on est aujourd'hui sur 40 fois plus d'argent qui est mis sur le système de soins que sur les enjeux de prévention. Une étude qui avait été faite par le cabinet Asterès qui mentionnait que si on était non plus sur 2,5% des dépenses de santé liées à la prévention, mais sur les standards de l'OCDE, c'est-à-dire à peu près 5%, nous serions sur deux années d'espérance de vie en bonne santé qui seraient améliorées dans notre pays et 17 milliards d'euros d'économies.
Donc ça veut dire plus de dépistage, ça veut dire un système de santé qui change quand même de modèle.
Hein. La vaccination, le dépistage, il faut aller beaucoup plus loin puisqu'il y a aujourd'hui un certain nombre de non-recours qui existent, mais plus encore agir sur les déterminants de santé. Et on le voit sur la période que l'on vit, les enjeux de santé et environnement seront probablement nécessaires. Il faudra anticiper, prévenir d'une manière beaucoup plus forte ces risques de santé.
Le déficit de la sécurité sociale, selon les dernières estimations, pour 2026, ça sera au-delà des 23 milliards d'euros. Alors vous me dites, il faut transférer les responsabilités, pas forcément uniquement les charges, mais ça va quand même se produire. C'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé ces derniers mois. À un moment donné, on transfère des charges aux mutuelles.
Oui, on est dans de la gribouille.
Ouais.
C'est-à-dire que comme on est dans une gestion qui est une gestion du court terme, le plus facile c'est de jouer sur des paramètres. Alors c'est le ticket modérateur qui est moins pris en charge par l'assurance maladie, qui est plus pris en charge par les complémentaires, c'est davantage de taxes, etc.
Gelant les tarifs, ce qui veut dire que quand même ça vous coince dans un canal, vous pouvez pas augmenter les tarifs mais vous avez des charges qui augmentent.
Oui, ça on attend la décision du Conseil d'État puisqu'il y a aujourd'hui on ne peut pas appliquer ce qui a été voté par le législateur, non pas par irrespect à l'égard du Parlement, c'est tout simplement qu'il y a des injonctions réglementaires qui sont contradictoires. C'est-à-dire que vous avez sur des contrats collectifs des évolutions automatiques qui se font sur les tarifs chaque année à travers le plafond mensuel de sécurité sociale qui a été augmenté de 2% par les parlementaires. Donc là, il y a des contradictions qu'il est important de pouvoir lever. Et c'est tout l'enjeu de la décision du Conseil d'État que l'on attend. Mais vous voyez, le sujet, c'est que l'inaction sur des réformes structurelles, sur des choses qui sont importantes pour adapter notre système de santé, ne sont pas prises. Donc, dès lors qu'on n'abordera pas ces réformes d'une manière structurelle, il y aura un coût. Et c'est vrai, dès lors que vous avez pour l'État un ralentissement d'économie ou un contexte géopolitique qui vient abîmer davantage encore les paramètres macroéconomiques, eh bien, à un moment donné, il y a une urgence pour l'État de trouver des solutions. Mais les mutuelles, leur mission, ça n'est pas d'être des préleveurs d'impôts et ça n'est pas de pallier les absences de régulation de la part de l'État.
Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il faut réintroduire une question de prix et il faut que la santé coûte à celui qui l'utilise, qui en est bénéficiaire, même ne serait-ce qu'un petit peu? Est-ce qu'il faut un reste à charge sur l'ensemble de la santé?
Alors d'abord, les Français payent beaucoup. Et payent beaucoup parce qu'il y a des inégalités qui existent, des inégalités sociales et territoriales d'une manière beaucoup plus forte. Et on le voit, pour des personnes qui n'ont pas en proximité des professionnels de santé, tout cela a un coût qui est supporté. Ensuite, la question que vous posez, elle est juste. On a le sentiment, en fait, dans notre pays, que la santé, c'est gratuit. Or, la santé a un coût. Elle a un coût qui est payé soit par des cotisations, soit par de l'impôt, ou soit par des cotisations auprès des mutuelles. Les dépenses de santé, dans les décennies qui viennent, ne vont pas ralentir. Elles ne vont pas ralentir, elles vont augmenter. Parce que le vieillissement de la population, parce que les maladies chroniques dont on parlait, parce qu'également, l'innovation thérapeutique nécessite d'investir d'une manière encore plus forte. Donc nous n'aurons pas demain moins de dépenses de santé. Mais par contre, nous devons travailler sur des parcours de soins, des parcours de santé qui soient différentes. Et à votre question d'une manière précise, moi ce qui m'importe, c'est que demain, on conserve sur les soins qui sont les soins essentiels, sur les soins qui sont les soins lourds, je pense à des traitements anticancéreux, aux dialyses, où il y a un reste à charge qui est en effet quasiment nul dans notre pays, il faut préserver ça, et probablement sur les médecines douces, arrêter de financer.
Donc ça veut dire, vous achetez une boîte de Doliprane, à un moment donné, vous payez ne serait-ce qu'un petit peu, et ça pourrait être pas le cas pour ceux qui ne peuvent pas, mais il pourrait y avoir un reste à charge global.
En tout cas, c'est des éléments qui doivent faire partie d'une réflexion, et d'une réflexion collective, mais rester centré sur qu'est-ce qui est essentiel pour la santé et ce qui est accessoire ou ce qui peut, pour certains d'entre nous, être un élément de qualité ou de confort, en effet, que ce soit pris en charge, pas par la solidarité nationale, pas par les mutuelles, mais bien par chacun d'entre nous.
En allant dans ce groupe d'experts, vous y croyez au fait qu'on va pouvoir remettre à plat le système? C'est-à-dire que vous pensez à un grand soir du système de santé?
Si je me suis engagé dans cette mission, c'est parce que j'en avais marre de constater qu'on ne faisait rien. Et je crois profondément sur le fait que nous avons un pilier qui s'appelle la sécurité sociale, l'assurance maladie, qui est extrêmement précieuse, mais nous avons besoin d'avoir une intervention qui soit plus assumée sur des pans entiers aujourd'hui de notre santé par les complémentaires santé. Donc oui, j'y crois, oui, bien sûr.
Sur la question des retraites, aujourd'hui on a l'Allemagne qui annonce qu'elle réfléchit à réformer l'ensemble de son système. C'est l'équivalent du corps qui propose une réforme choc, repousser l'âge de départ au-delà de 67 ans, indexé sur l'espérance de vie et rendre une part de capitalisation obligatoire. Est-ce que vous partagez cette idée? Est-ce que rendre une partie de la capitalisation obligatoire, c'est une bonne idée?
Oui. Oui, c'est une bonne idée et il faut qu'on y aille. Et là aussi, sans prévention. C'est-à-dire que nous avons un modèle qui est un modèle qui va s'essouffler parce que une réalité, c'est que il y a une supportabilité entre le déséquilibre entre actifs et inactifs qui va peser d'une manière beaucoup plus lourde sur le modèle de sécurité sociale, mais plus encore, parce que vous allez avoir dans les 20 ans qui viennent un taux de remplacement qui va chuter. On est aujourd'hui sur un taux de remplacement qui est de l'ordre de 55%, je le fais tête, et dans les projections qui sont faites à horizon 2045-2050, on va perdre 8 points. 8 points, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en termes de pouvoir d'achat, il va y avoir un appauvrissement des futurs retraités. Donc l'objectif, c'est soit on repose simplement sur notre modèle de répartition, ou soit on le complète à travers une part de capitalisation.
Alors, dans le modèle allemand, il y a une petite une hausse de cotisation quand même.
Oui, de l'ordre de 2%, voilà. de 2% qui est proposé, qui s'inspire d'ailleurs du modèle suédois, puisqu'on est là aussi sur un modèle qui est, je crois, de 2,5% de cotisation. Et ensuite, il y aura des arbitrages qui seront à faire pour avoir un modèle qui soit un modèle purement français. Est-ce qu'on fait reposer cette capitalisation sur le fonds de réserve de retraite? J'émets simplement une interrogation, c'est que comme depuis les lois de financement de sécurité sociale de 2011, on prélève sur ce fonds de réserve de retraite chaque année 2 milliards, un peu plus de 2 milliards pour le rééquilibre de la sécurité sociale et le transfert à la CADES. Là, ces dernières années, je crois qu'on va être sur 1,4 milliard, c'est-à-dire on affaiblit d'une certaine manière la portée et l'efficacité du fonds de réserve des retraites. Mais par contre, on peut imaginer que ce soit une caisse qui soit gérée demain par les partenaires sociaux avec les représentants du patronat et les représentants des salariés.
Vous voyez, il nous reste quelques secondes. Les Français aujourd'hui faire ça tout seul, c'est-à-dire préparer leur retraite par capitalisation à travers le succès du PER notamment. Vous le voyez, en fait, ils font déjà ça, ceux qui ont les moyens.
Oui, ils ont conscience. Simplement, vous l'avez mentionné, on est sur un dispositif qui est facultatif et l'enjeu, c'est de le rendre obligatoire tout simplement pour avoir la masse de mutualisation qui nous permet d'avoir un dispositif qui fasse un rendement de l'ordre de 4, 5, 6%. Et ce qui permettra de combler la perte des 8 points en termes de taux de remplacement.
Et ce qui permettra peut-être d'investir à long terme, notamment dans le logement, dans le nucléaire ou dans l'intelligence artificielle.